Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci hein, surtout pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Vous le savez très bien, déjà quand il sonne 11h, vous avez rendez-vous avec l'émission Club de la Presse. Bienvenue au club. La mise en place alors de l'AMU porte le coût de la charge sociale supportée par les entreprises au Togo de 17,5% à 22,5% contre 13% au Ghana et 15,4% au Bénin, 16% au Burkina Faso et 13,8% au Nigeria. La mise en place alors de l'AMU a fait passer le coût social global au Togo de 21,5% à 31,5%, ce qui pose un sérieux problème pour la compétitivité des entreprises togolaises. L'AGET, l'association des grandes entreprises du Togo, préoccupée par le sujet, exige l'organisation d'une table ronde entre le gouvernement et le secteur privé pour réfléchir ensemble sur la problématique des charges sociales au Togo. Le sujet est évoqué ce matin par le journal L'Union. Nous allons l'aborder et nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité, tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin. Et bien sûr, dans cette émission Club de la Presse, nous allons en parler. Nous allons parler de ces sujets Club de la Presse lors de ce vendredi 18 avril 2025. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sousa assure la mise en onde. Jérôme Dakoutia est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Mes salutations fraternelles à vous tous ceux qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Amiro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM, nous sommes à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous le savez très bien, vous nous suivez partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibino Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité du Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes et aussi mes invités. Et l'équipe, alors de vendredi, se met déjà en place. Fermé Teko Agbo, bonjour.
Bonjour Pascal Ossou, merci de m'avoir invité.
J'espère que vous allez bien.
Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Nous avons passé une semaine agréable. Avec sa grâce, avec un certain mouvement au niveau de notre centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmé Teko Agbo. Et ce matin, nous avons sorti, comme le faisons depuis un bon moment, dans le cadre de notre campagne que nous avons lancée pour la 5e République, nous avons sorti un article, l'article 36 de la nouvelle Constitution, qui dispose le gouvernement composé du président du Conseil, des ministres d'État, des ministres délégués et des secrétaires d'État. En fait, c'est juste faire lancer un coup d'œil à l'endroit de ceux qui dirigent pour dire qu'en réalité, le temps est en train de passer. Nous devrons avoir presque toutes les institutions de la 5e République avant le 5 mai. Ça veut dire que nous devons avoir...
Philippe, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes écouté?
Oui, je suppose. Je suppose pour avoir la conscience tranquille.
D'accord, c'est l'essentiel pour avoir vraiment la conscience tranquille.
Parce que vous imaginez, si peut-être je me disais que je ne suis pas écouté, je ne vais plus continuer. Donc j'ai la conscience tout tranquille en disant que ceux qui nous écoutent, ceux qui dirigent le pouvoir, ils ont la bonne foi, puisque la bonne foi est présumée. Et ce sont eux qui ont tout mis en place pour que nous ayons la conscience de la 5e République. Et ils connaissent très bien l'article 95 de la Constitution qui dit que les institutions devront être mise en place dans un délai n'excédant pas 12 mois. Alors le 5 mai prochain, c'est la fin de ces 12 mois. Donc avant le 5 mai, nous devons avoir le président du Conseil, le président de la République. Et quand on a le président du Conseil, ça veut dire qu'on doit avoir le gouvernement qui doit être mis en place. C'est ce que nous avons cité ce matin avec l'article 36. Donc ils sont de bonne foi. Donc ils vont tout mettre en place. Donc, mais si cela il a donné qu'on n'ait pas toutes les instructions avant le 5 mai. Donc, on devrait nous le faire savoir, peut-être faire réagir la Cour constitutionnelle, qui puisse, c'est elle qui juge de la constitutionnalité des choses. Donc, la Cour constitutionnelle pourrait bien faire ce travail-là. Mais, toujours est-il que nous avons une nouvelle République. Notre ambition, c'est elle est beaucoup plus citoyenne, amener tous les Togolais à maîtriser le contenu de cette nouvelle constitution, parce qu'il y a des choses intéressantes dans cette constitution. Il y a les droits et devoirs. 25 articles sont consacrés à cela. Il y a les citoyens togolais ont d'autres droits politiques, économiques, civils et autres. Donc, nous invitons tout le monde à toujours s'approprier cette constitution parce que c'est notre loi fondamentale, c'est notre constitution.
D'accord. Merci, Fermette Kouagbo, d'avoir répondu à notre invitation. Samir Orosama, bonjour.
Bonjour Pascal, c'est un plaisir de te retrouver de nouveau. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent un peu partout à Lomé et puis dans les localités environnantes.
Le plaisir est partagé, Samir, et merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est toujours un plaisir pour moi.
D'accord. Kofi Annani, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour et merci de m'avoir invité.
Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Gabi Ndiaro, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs et bonjour au plateau. Aujourd'hui c'est un jour saint, c'est vendredi saint pour les chrétiens, un jour doublement saint d'ailleurs parce que c'est Jumma Mubarak aussi pour les amis musulmans. Donc on va profiter de cette journée au maximum et que les bénédictions pleuvent sur nous et sur toute la population togolaise et bon chemin de croix surtout aux chrétiens catholiques. Voilà, peut-être Jésus est en train de se signaler, on ne sait pas trop.
Alors je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux. Mais il y a une émulation ces derniers temps sur les réseaux sociaux. C'est par rapport à notre compatriote Donné TV7. C'est ça son nom alors de réseau. Oui. Et sur TikTok, le jeune, il est là. Il est plus alors très visible alors sur TikTok. Il semble qu'il y a un concours. La finale alors de ce concours a été jouée hier au Cameroun. Et c'est le Togo qui a gagné ce concours, c'est-à-dire le Togo. Le sacré champion. On a vu cette émulation que tous les Togolais pratiquement ont eu à l'endroit lors de ce jeûne. Est-ce que vous avez compris justement cette émulation? Parce qu'il y a des gens quand même qui disaient que mais finalement il n'y a absolument rien qui donne la joie aux Togolais maintenant si ce n'est plus ça.
Vous savez, moi j'ai compris quelque chose par rapport à cette histoire de House of Challenge. C'est que les Togolais aiment leur pays. Les Togolais aiment leur drapeau et peu importe la personne qui porte ce drapeau-là, les Togolais sont capables de soutenir cette personne. C'est ce que moi j'ai constaté par rapport à ce jeu. C'était quelque chose d'anodin, comme ça, des petits jeux, des petits trucs et tout, mais les Togolais ont tellement pris ça à cœur. Et il n'y a pas eu cette émulation-là dans aucun autre pays des participants. C'est juste au Togo, tu vois des caravanes, des gens qui sortent. Hier, moi j'ai eu des échos comme quoi à Palimé, les gens ont fait pratiquement une caravane pour ce petit. Au-delà de son étoile, on peut dire aussi que c'est la force des réseaux sociaux et surtout l'amour des Togolais pour leur pays, pour leur drapeau et voir le drapeau togolais flotter haut, dire que le Togo est premier dans quelque chose, c'est très important pour nous Togolais. Et, même les vieilles au marché, tout le monde a contribué, a participé à ce que le petit remporte le prix. C'est très bien et je pense que c'est un modèle aussi parce que ce petit-là, Dieudonné, Donné TV7, bon, moi j'ai eu particulièrement à discuter avec lui, ça fait pratiquement 3 ans quand j'ai vu ses contenus sur TikTok et autres. Il n'a jamais
eu à faire de contenu. C'est vrai qu'il a commencé par poser la voix sur les journaux.
Les journaux. Voilà, par là que moi je l'ai connu.
Voilà.
Donc j'ai eu à discuter avec lui pour lui demander, bon, peut-être s'il aime le journalisme. Il dit que non, c'est juste une passion comme ça qu'il a développée. Il s'amusait avec, parce que depuis le bas âge avec son oncle, bon, il aimait suivre les journaux. Donc du coup, il a eu véritablement cette envie-là de faire un contenu TikTok en produisant les journaux que bon RFI a déjà diffusé. Donc du coup, c'est devenu une sorte de passion pour lui. Et il faut dire que par rapport au contenu, parce que c'est quelqu'un qui ne fait jamais de contenu obscène, comme le font la plupart des gens, et son respect, son étoile, sa manière de voir la vie, d'être simple, d'être assez respectueux, et aussi d'être travailleur, parce que après tout, c'est un enfant qui est très travailleur. Moi, à cette période-là où j'ai eu à discuter avec lui, j'ai même rencontré son, bon, c'est certaines personnes avec qui il travaillait, il vendait déjà des savons liquides. Lui-même, il produit du savon liquide et autres. Là,
il est un entrepreneur.
Il vendait des marchés. C'est un entrepreneur. Mais à ce moment-là, il avait à peine 17 ans. Vous voyez un peu, donc c'est un jeune, malgré que, bon, il était orphelin et tout, il n'a pas joué de son orphelinat pour attirer l'attention, mais il s'est accroché à son travail. Et c'est aussi ça qui a aussi, qui l'a propulsé au devant de la scène aujourd'hui. Moi, j'aime cette émulation autour du jeu et surtout autour du drapeau togolais, parce que pour qu'il gagne, ce sont les Togolais qui ont contribué en votant. C'est des millions, des dizaines de millions qui sont partis dans ces votes-là. Mais ça fait flotter haut le drapeau togolais.
Merci d'abord. Voilà, finalement, c'est justement cette émulation autour de la chose. C'est vrai que tout au début, ça a été anodin. On se dit, mais écoutez, quelque chose comme House of Challenge, et qui est en quelque sorte quelque chose qui n'est pas connu. Finalement, il y a toute une émulation. Des Togolais se sont appropriés de cela comme si c'était la Coupe du Monde que le Togo a participé là.
Non, c'est intéressant. Vous savez, quand vous avez des compatriotes qui brillent à l'extérieur, ou quand vous apprenez que un de vos compatriotes, ou de vos amis, ou quelqu'un qui n'était même pas connu du grand public arrive à décrocher quelque chose à l'extérieur, ça fait plaisir, naturellement. C'est, en fait, c'est la fibre patriotique qui fait parler d'elle. Donc ça fait plaisir. Moi je vous dis, c'est juste un petit talent que nous venons de découvrir. Il y a assez de ces talents au Togo. Il y en a assez, parce que Dieu... J'ai une fois rencontré Koubadia Kader, c'était l'année passée, et il me dit qu'en réalité, il y a assez de Kader, assez de Cheyi au Togo. Il y en a assez, il y a des gens qui sont morts, qui ont joué, qui avaient des talents extraordinaires, et qui ne pouvaient même pas toucher les chevilles de ceux-là. Mais Dieu a projeté une certaine lumière sur eux, Kader, et aujourd'hui le monde les connaît. Donc pourquoi ne pas rester humble? C'est ce qu'il nous avait dit à l'époque. Donc j'ai trouvé ces propos un peu humbles, beaucoup humbles. Et moi je me dis, sur ce petit-là que nous sommes en train d'applaudir dans ce studio, il y en a encore. Plusieurs. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour détecter les talents? C'est un pasteur qui a dit, l'endroit le plus riche de la planète, c'est le cimetière. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui naissent avec les talents, mais qui n'arrivent pas ou qui n'arrivent pas à rencontrer cette chance-là, qui puisse leur permettre de développer ces talents-là. Au Togo, ou en Afrique particulièrement, nous n'avons pas assez de mécanismes qui puissent nous permettre de développer nos talents. C'est ça le problème. Vous savez ce qu'on appelle hockey sur glace? Hockey sur glace, quand on fait les Jeux Olympiques, vous voyez tout ça. Quand vous voyez, par exemple, les championnats français dans plusieurs domaines d'athlétisme, il y a assez de disciplines, il y a des dizaines de disciplines. Pourquoi qu'il n'y a pas de Togolais aujourd'hui qui puissent développer ces disciplines? C'est des talents qui meurent comme ça. Vous voyez, il y a des talents. Alors qu'est-ce qu'il faut? Mais c'est là où les dirigeants devront se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir développer les talents? Parce que sans ces talents, on ne peut jamais devenir des pays développés. Les pays développés se construisent avec des gens qui ont des talents, c'est tout. Peut-être qu'il y a des gens qui balaient des rues, qui ont peut-être une expertise dans ce domaine-là. Ce n'est pas que les talents, ce n'est pas avoir de grands doctorats, tout ça. Non, ces talents, on est avec, et c'est avec ça. Parce que quand Dieu vous envoie sur la terre, c'est pour construire la terre, c'est pour remplir la terre, lui donner une certaine forme. Donc, il y a plein qui naissent comme ça avec de différents talents, mais on n'arrive pas à les détecter. Donc, il revient au gouvernement, à nos gouvernants, surtout africains, de mettre en place des mécanismes qui puissent nous aider à éclore nos talents. Peut-être vous qui êtes ici, vous êtes journaliste, peut-être vous avez d'autres talents, peut-être plus performants cette qualité de journaliste. Mais du moment où vous n'êtes pas ce mécanisme-là, donc peut-être vous allez vivre journaliste jusqu'à la fin de vos jours. Donc il revient, c'est pour ce petit là, nous la production tous les deux mains, que Dieu l'aide à aller de l'avant. Mais la question fondamentale, c'est que nous avons des talents qui n'arrivent pas à éclore. Vous savez, il y a une dame que j'apprécie ces temps-ci, on l'appelle, elle était députée l'année passée, elle sort régulièrement, Abila Bofo.
Abila
Bofo, elle organise un concours qui puisse permettre de détecter les jeunes filles scientifiques. Mais après ça, On n'a pas de laboratoire. Il y a peut-être des filles, elles vont aller à l'université, puis c'est fini. Elles vont peut-être enseigner, puis c'est fini. Alors qu'avec ce qu'elle est en train de faire, elle expose aux yeux des gouvernants. Regardez, nous avons des filles qui s'intéressent à la science, aux filières scientifiques. Il faut les aider. Et avec ça, qu'est-ce qu'il faut? Peut-être il faut mettre en place des laboratoires beaucoup plus performants qui puissent permettre, qui puissent embaucher, ou peut-être, oui, embaucher ces jeunes-là et leur permettre de développer encore plus ces talents-là. Mais on n'a pas ça. Elle va faire peut-être des années plus tard. Elle sera fatiguée.
D'accord. Samir, est-ce que vous avez aussi l'impression que nous ne valorisons pas nos talents?
Alors, le dire ainsi, je pense que c'est peut-être c'est trop aller loin, parce qu'en réalité, quand vous prenez la réalité dans nos pays africains, on est confronté au même problème. Nous n'avons pas assez de ressources, alors qu'il y a énormément de défis. Et donc, normalement, quand vous êtes dans un pays comme le nôtre où tout est urgent, dans tous les domaines, il faut... Je ne dirais pas qu'il faut abandonner un certain nombre de domaines, un certain nombre de secteurs, mais il faut faire en sorte que chaque domaine, chaque secteur d'activité puisse avancer au fur et à mesure que les ressources sont mobilisées. Alors, le loisir, c'est quelque chose de fondamental dans un pays. Il fut un temps où les loisirs étaient véritablement attachés à un ministère. Parce que quand vous êtes dans un pays...
C'est des sports.
Où, exactement. Donc, quand vous êtes dans un pays où vous avez des ambitions pour la jeunesse, les loisirs, c'est quelque chose qui permet aux jeunes de faire éclore leurs talents. C'est à partir de ces différents jeux-là que vous détectez les talents qui sont en ces jeunes-là. Et fort heureusement, depuis un certain moment, nous avons les maisons de jeunes qui sont construites de part et là. Il y a une certaine volonté politique d'aller vers là, même si les attentes sont assez nombreuses, les attentes sont vraiment grandes, qu'on se dit véritablement qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait. Donc, vous voyez un peu. Et donc, quand on fait l'analyse de tout cela, on se dit que on doit pouvoir investir en la jeunesse. On doit pouvoir investir dans tous les domaines au niveau de la jeunesse. Non seulement sur les questions de loisirs. Aujourd'hui, on a découvert ce jeune talentueux-là sur les réseaux sociaux. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Peut-être même il y a d'autres plus talentueux que lui.
Oui,
mais Dieu Tout-Puissant a voulu que ce soit lui,
son
image puisse véritablement se faire voir la face du monde. Et voilà, lui aussi, c'est peut-être son destin de pouvoir profiter de cela. Et Dieu seul sait, vous avez vu les différentes réactions, les promesses par ici et par là, tout ce qu'il peut avoir à partir de ce jeu-là, qui paraît anodin. Vous avez vu ce qu'ils font? Oui. Sur les réseaux sociaux.
C'est juste des petits jeux.
C'est des petits jeux. Sauf que ça met en compétition des nations.
Oui.
Et donc, quand ça met en compétition des nations, ben, ça émule un certain attachement, un certain patriotisme donc vis-à-vis de ces participants-là. Et donc, on a vu, ce n'est pas seulement au Togo qui a ce patriotisme-là. Vous avez vu de part et d'autre de ces pays-là. Et donné, ce n'est pas seulement le Togo qui l'a porté. Hein.
Oui. Tout à fait.
C'est toute l'Afrique. Vous avez des gens qui sont dans les autres pays, même des gens qui sont en Europe, aux États-Unis, qui aiment ce qu'il fait, qui aiment ce qu'il produit. Je pense que il y a de cela quelque temps, même RFI dans ses émissions de temps en temps lui fait des dédicaces, même lui envoie un certain nombre de gadgets parce qu'ils apprécient le talent qu'il y a en lui. Donc je pense que cela en tout cas cela n'appelle pas le gouvernement à accorder une importance à la jeunesse, parce que le gouvernement est déjà conscient de cela. Je pense qu'il faut, quand vous êtes dans un pays comme le nôtre, où il y a énormément de défis, où il y a énormément d'urgence, il faut de temps en temps attirer l'attention des autorités. Parce que vous avez des jeunes qui mettent en action leurs talents, et des talents qui ne heurtent pas la sensibilité, qui ne heurtent pas les us et coutumes. Parce que vous avez des gens sur les réseaux sociaux qui exposent leur corps. Vous avez des jeunes filles togolaises qui exposent leur corps.
Oui.
Et donc, pour eux, c'est ça qui vend. Et c'est ce qu'on nous fait comprendre dans les séries, dans les chaînes internationales. On nous fait comprendre que quand une femme expose son corps, c'est ça qui vend. Et c'est ça que vous avez aujourd'hui, exposer ses seins, exposer ses fesses.
Sur les réseaux sociaux.
Bien sûr, sur les réseaux sociaux. Et donc, quand vous avez, à côté de cela, des jeunes qui n'ont pas besoin d'exposer, et qui font valoir leur talent,
et qui exposent plutôt leur chose,
véritablement, qui exposent quelque chose, ça doit susciter un certain intérêt. Et vous avez vu la ministre des Sports et des Loisirs, et puis c'est une femme exceptionnelle d'ailleurs, elle soutient toutes les initiatives
qui permettent aux jeunes de véritablement apporter une contribution au développement. Vous avez vu son geste, et je suis sûr que quand ce jeune-là reviendra au pays, ben, ce jeune sera reçu par le ministre des Sports, qui fait partie donc du gouvernement. Donc au nom du gouvernement, va le recevoir, le féliciter, même si le gouvernement ne donne pas des millions. Mais le fait qu'il y ait un certain honneur qui est donné à ce jeune-là, le fait que le gouvernement lui offre ce cadre-là d'échange, je pense que ça va susciter d'autres jeunes à véritablement se prendre en main et puis à travailler, à aller dans ce sens-là. Nous devons juste encourager, féliciter et aider de peu que nous pouvons. Je sais que les médias aussi pourront le recevoir pour essayer de partager, essayer de lui permettre de partager.
Justement, même d'ailleurs, cette émission que nous sommes en train de faire, je pense que c'est une forme d'hommage que nous lui rendons par rapport à sa prouesse. Oui, Koffi, c'est vrai que je posais la question à Samir tout de suite concernant le fait que est-ce que nous n'avons pas l'impression que nous ne valorisons pas alors nos talents. Et c'est vrai, il y a beaucoup de talents, beaucoup de gens quand même qui sont là aujourd'hui. C'est parce que le feu de projecteur est sur TV7, c'est pour cela même d'ailleurs que nous parlons de lui avec ce concours dans lequel il a mis le Togo sur le piédestal. Maintenant, oui, c'est vrai que quand on prend quand Dieudonné reviendra, peut-être que le gouvernement va le recevoir et par après, peut-être que on aura à lui faire quelque chose ou pas. Mais finalement, cette valorisation, c'est-à-dire ce qui serait l'avenir, les perspectives alors de se donner, c'est de ça aussi qu'il s'agit.
Merci Pascal. Moi je vais aller sur deux sens. Le premier, c'est cette compétition que nous avons tous, soit directement vue sur TikTok, soit écoutée. Ça relate deux choses très importantes. La première, c'est l'amour que les Togolais ont pour ce pays, l'amour que les Togolais ont pour notre pays. Et la seconde chose, c'est l'importance de ce qu'on appelle le talent. Le talent, cette chose-là qui n'a aucun respect pour les diplômes, aucun respect pour nos origines, aucun respect pour la famille dont tu sors, aucun respect pour qui tu es, aucun respect pour le pays dans lequel tu es né. Vous savez, il y a une citation de Winston Churchill qui dit qu'il arrive un moment dans la vie de tout homme, un moment pour lequel la personne est venue au monde, une opportunité pour laquelle la personne est conçue, une chose pour laquelle cette personne est venue au monde et pour laquelle elle est qualifiée. Et quand cette opportunité-là de faire sortir cette chose vient à cette personne et que la personne la saisit, la personne retrouve la grandeur. On peut tout dire aujourd'hui sur les efforts ou le manque d'efforts du gouvernement à accompagner les talents ou à les aider à aller de l'avant. Mais nous devons comprendre une chose. Si nous prenons le cas de Donné n'a pas eu au tout début des gens qui se sont mis ensemble pour l'aider. Il a eu d'abord à découvrir en lui-même qu'il avait quelque chose qu'il devait valoriser. Il a pris le temps de travailler sur ce qu'il avait. Et c'est le fait de travail là qu'il a fait dans l'ombre qui fait aujourd'hui qu'on le reconnaît. Donc il n'appartient pas au gouvernement d'aller déceler les talents dans les gens, mais il appartient aux individus eux-mêmes de se demander pourquoi est-ce que je suis venu au monde, qu'est-ce que je peux faire pour faire sortir ce que Dieu m'a donné. Mais non, si la personne découvre ça, dans certains cas ce sont les parents de la personne qui découvrent, et ces parents-là sont censés accompagner la personne. Dans les cas où il n'y a pas de parents, comme le cas de Donné qui n'a pas de parents, mais il s'est mis au travail lui-même. Il s'est posé des questions, les questions réelles sur son identité. Et quand il a travaillé dans l'ombre, aujourd'hui, on le reconnaît. Et comme vous le dites, à son retour, le gouvernement va sûrement chercher à le rencontrer. Il y aura des opportunités pour lui.
Vivement.
Voilà. Mais il faut qu'on comprenne que le travail de décèlement du talent, le travail d'identification du talent, se fait par soi-même, ou soit se fait par des gens qui sont proches de nous. Ce n'est pas un gouvernement de faire ça. On peut continuer par appeler le gouvernement à aider ceux-là qui ont quelque chose en eux et qui peuvent faire
leur talent,
éclore leur talent, donner honneur à notre pays sous d'autres cieux. Mais il nous appartient d'abord de travailler sur ce qu'on a en nous.
Justement, puisque l'individu a besoin justement alors de se réaliser et de travailler sur son talent pour que les uns les autres aussi puissent le reconnaître. Même pour avoir d'accompagnement, pour avoir de l'aide, il faudrait que toi-même tu fasses quelque chose d'abord.
Sans le travail, personne ne peut te reconnaître.
C'est très important. Alors, on va quitter le sujet. Félicitations à Donny TV7 pour sa prouesse et pour avoir honoré même d'ailleurs le pays sur tout le continent, bien sûr. Puisque rappelons qu'il a joué la finale avec le Sénégal. C'était le Togo et le Sénégal. Félicitations à lui. On va quitter le sujet. On s'intéresse à un autre sujet. Ce sujet, je l'évoquais déjà au début, alors de cette émission, par rapport à l'AMU. Et, Gabin, c'est vrai que le journal L'Union, justement, est revenu sur le sujet. Hein, le journal écrit charge sociale de l'AMU supportée par les entreprises. Togo, 22,5%, Ghana, 13%, Bénin, 15,4%, Burkina, 16%, Nigeria, 13,8%. C'est par rapport à la mise en place alors de l'AMU hein, qui porte le coût de la charge sociale qui est supportée par les entreprises au Togo de 17,5% à 22,5%, tel que nous l'avons dit tout de suite. Alors, Gabin, c'est vrai que au-delà de sept pays, même d'ailleurs de la sous-région, des pays alors d'une grande économie, quand on prend des pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, on prend le Ghana, c'est des pays alors de grande économie, et ou relativement bien sûr en le disant ainsi, mais on voit que les entreprises supportent, pour ce qui concerne alors l'AMU, l'assurance maladie universelle, les entreprises supportent plutôt alors des coûts moins par rapport au Togo. Au Togo, on parle alors de 22,5%. Est-ce que ce n'est pas trop?
Ah oui, c'est trop dans les faits, mais chaque pays a ses réalités. Les pays dont tu viens de parler, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et autres, là, ce sont quand même des pays à grande économie, surtout le niveau de vie est assez élevé. Du coup, ça veut dire que les entreprises payent beaucoup plus mieux leurs employés. Mais ici, c'est complètement différent. Notre SMIC, c'est assez qu'en 2500 francs. Donc, il y a certaines entreprises même qui ne respectent pas cela. Et véritablement, je pense que on aurait gagné. C'est vrai, l'AMU, c'est factuel aujourd'hui parce que quand tu parcours tout le territoire national, il faut savoir que véritablement, il y a beaucoup de personnes qui bénéficient quand même de cette assurance maladie universelle-là. Et c'est un fait. J'ai eu à toucher du doigt la chose et je sais très bien que les gens en profitent. C'est très bien pour nos populations, surtout là, ceux qui sont en train de travailler dans le secteur privé et même dans le secteur public. Parce qu'avant, c'était juste le secteur public qui bénéficiait quand même de l'assurance maladie, mais aujourd'hui, c'est élargi même au secteur parapublic et privé. Donc, pour moi, c'est toujours une très bonne chose. Maintenant, j'aurais voulu qu'il y ait une discussion à la base. C'est vrai, il y avait une consultation entre l'État et puis le patronat, mais ce n'était pas trop approfondi. Aujourd'hui, le patronat est en train de dire que non, on est en train beaucoup plus de les poncer. Ils participent beaucoup plus aux charges. C'est de bonne alloi, vous savez, ce sont quand même des gens qui sont épris de bénéfices. Ils sont là pour travailler et surtout gagner assez d'argent. Donc, ils ne sont pas trop pour participer quand même aux charges de leurs employés. Mais 22,5%, c'est ça le chiffre, non?
Justement, c'est ça le chiffre. Contre 13% au Ghana, 15,4%, le Burkina 16%, le Nigeria 13,8%.
Oui, c'est tout à fait normal qu'ils se plaignent. C'est tout à fait normal qu'ils se plaignent. Mais je pense que la discussion doit avoir lieu avec le gouvernement pour savoir dans quel secteur on peut aussi participer à alléger un tant soit peu leurs charges. Parce que aujourd'hui, l'État ne peut pas alléger la charge de 22%. Il y a un calcul qui avait été fait par rapport à ces charges-là. Et l'État a trouvé voilà, c'est le début de l'AMU. Il va falloir participer à un tel taux. Et surtout, ce n'est pas que pour leurs employés. Il y a aussi d'autres secteurs, d'autres personnes qui sont dans des situations un peu difficiles. Donc, du coup, il va falloir un tout petit peu participer aussi à ces charges sociales. La raison pour laquelle l'État a trouvé mieux, peut-être de prélever 22,5%, et peut-être 5% va servir à aider d'autres personnes qui n'auront pas forcément les moyens de participer à ce taux-là. C'est vrai, ce ne sont pas toutes les entreprises qui participent à 22,5%, hein. Ça, ce sont les grandes entreprises, mais il y a les petites et moyennes entreprises qui, eux aussi, participent à ces charges-là, mais à taux beaucoup plus réduit. Donc, pour faire en sorte que l'État puisse apporter aussi, l'État apporte énormément au niveau de la subvention de l'AMU. Donc, du coup, je pense que il doit y avoir une discussion entre le patronat, c'est-à-dire les grosses sociétés, et surtout l'État pour voir dans quelle mesure, peut-être s'il faut alléger un tant soit peu certaines taxes, pour qu'ils puissent aussi arriver à engranger un certain nombre de bénéfices. Je pense que ça va les aider. Et c'est dame, c'est nécessaire, dame Ingrid Abadé qui conduit quand même ce projet-là. J'aimerais passer par là pour saluer son dévouement et son engagement par rapport à ce travail, parce que la CNSS, c'est l'une des structures les mieux organisées du pays, sinon pour moi la mieux organisée. Déjà là-bas, le travail, ça commence à 7 heures, hein, c'est pas une question de 7 heures 30 ni 8 heures. Tu commences à 7 heures, ça veut dire que on ne te demande pas de venir au bureau à 7 heures, mais tu dois venir beaucoup plus tôt.
D'accord.
Pour qu'on puisse faire le ménage et puis après, bon, c'est pas de la publicité, hein, mais c'est l'une des structures aussi qui note quand même ses employés de manière peut-être à encourager ceux-là qui font mieux. Donc, à un moment donné, je pense que il faut quand même féliciter ceux-là qui font bien et que vivement une discussion soit engagée entre le patronat et l'État pour voir dans quelle mesure on peut...
Justement, c'est ce que le patronat demande, même d'ailleurs, ou l'Association des grandes entreprises du Togo, c'est ce que la JETS demande, bien sûr. Mais Samir, c'est vrai que quand on parle de l'AMU, les principes alors de l'AMU, c'est la solidarité aussi, l'universalité, c'est-à-dire ça doit concerner pratiquement tout le monde. Et pour ce qui concerne la solidarité, c'est que ceux qui n'ont même pas aussi assez de moyens, là, ils vont bénéficier même d'ailleurs de cette assurance maladie, mais finalement si beaucoup, enfin des gens doivent bénéficier alors de cela, on parle de solidarité, mais si on doit bénéficier de cela, que ça doit aller plutôt c'est des grandes entreprises quand même qui doivent payer plus, c'est-à-dire 22,5%, est-ce que ça, il n'y a pas déjà le jeu qui est biaisé?
Ben écoutez, la première observation, c'est que quand vous prenez l'histoire du monde, toutes les réformes qui ont été opérées qui nécessite la contribution des parties prenantes n'ont jamais fait consensus. Prenez toute l'histoire du monde, dans toutes les grandes nations, toutes les réformes majeures qui ont été opérées et qui demandent l'effort des parties prenantes, ben ça n'a jamais fait consensus. Même si on ramène l'AMU à 2%, le patronat ou l'association des grandes entreprises du Togo trouveront toujours quelque chose à dire. Ben Pascal, écoutez, il y a de cela 3 ans, je pense 2 ans ou 3 ans, quand l'AMU avait commencé, ils étaient dans le processus, j'avais publié une réflexion, l'assurance maladie universelle, l'engagement fort du président Fonia Simbe. J'ai fait une analyse comparative des différents États, notamment le Burkina Faso, le Bénin, le Ghana. J'ai vu un peu comment, sur le plan législatif, le cadre juridique, et puis dans la mise en œuvre même de l'assurance maladie universelle, les difficultés auxquelles ces pays se sont confrontés. Vous comprenez? D'ailleurs, même quand ils disent 22, c'est pas juste. Il y a une part de l'employeur et puis il y a une part du salarié. Ce n'est pas 22,5% qu'il supporte. Donc il y a une partie donc qu'il supporte et puis une partie de
que supporte l'employeur.
L'employeur. Et puis l'AMU, elle est différente de la CNSS. Donc c'est deux charges sociales. Maintenant, peut-être que ça peut être le cumul de tout ce qu'ils
ça peut être le cumul
de ce qu'ils ont fait. Mais l'AMU, elle est différente donc de la sécurité sociale. Donc c'est véritablement deux charges sociales différentes. Et puis ce sont des cotisations sociales qui ne sont pas régies par les mêmes tests. Le cadre juridique est différent. Vous comprenez? Alors, ils ont cité l'exemple de... Le journal a cité l'exemple du Burkina, l'exemple du Ghana. Mais le Ghana a connu énormément de difficultés. Actuellement, le système de l'assurance maladie universelle au Ghana peine parce que l'État n'arrive pas à payer. Mais vous pouvez chercher. L'État n'arrive pas à payer les prestataires. C'est lourd à gérer. Quand vous prenez le Bénin a confié cela au secteur privé. Malgré ça, ça ne va pas. Donc, avant que le Togo ne mette en place le système assurance maladie universelle, ben, le Togo a fait une étude comparative. Le Togo même a allé dans un certain nombre de pays, notamment le Maroc. qui est un exemple en termes de sécurité sociale, en termes d'assurance maladie universelle. Et d'ailleurs, même l'assurance maladie universelle, c'est une cible donc des objectifs de développement durable. Donc au Togo, avec l'accompagnement des experts, ben, nous avons décidé d'aller progressivement en élargissant le panier de la prise en charge.
Voilà, le panier de soins.
Le panier de soins. Et ce qui est intéressant, quand vous prenez le système au Togo, l'assurance maladie universelle, vous vous rendrez compte que ceux qui contribuent sont ceux qui sont actifs. Donc ceux qui ont une occupation, les agents publics, et puis les salariés du secteur privé. Donc vous avez une autre marge de la population, notamment les agriculteurs, les paysans, les artisans, tout ça là, où il y a un pourcentage qui est prévu pour leur permettre également d'avoir accès donc aux soins. Donc il y a une subvention qui est apportée par l'État. Donc vous comprenez un peu. Il y a une subvention qui est apportée par l'État et qui permet véritablement au fur et à mesure, parce que on ne peut pas mettre en œuvre une réforme en allant de façon dure véritablement. Il faut aller de façon douce, progressive, et en essayant de voir dans la mise en œuvre quelles sont les difficultés et comment pouvoir ajuster ça. Parce que c'est important de le souligner, quand vous prenez les pays qui ont fait l'objet donc de la comparaison, quand vous prenez le Bénin, il y a également la sécurité sociale avant d'avoir la MU. Quand vous prenez le Ghana, il y a la sécurité sociale avant d'avoir la MU. Et quand vous prenez le Burkina Faso, il y a également la sécurité sociale avant d'avoir la MU. Donc ce sont des réalités presque les mêmes dans la sous-région. Parce que dans le cas de l'UOMOA, il y a également les questions de sécurité sociale qui ont fait l'objet donc de mesures pour permettre à ce qu'on puisse harmoniser les choses dans la sous-région. Et je pense que le secteur privé a un cadre d'échange avec le gouvernement.
Tout à fait.
Ils ont un cadre où régulièrement ils échangent d'un certain nombre de questions. Alors c'est pour peut-être, si vous permettez que je termine par là,
rapidement.
C'est pour dire qu'en réalité la MU, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est normal, quand vous avez besoin que les gens soient productifs sur le terrain, l'employeur doit pouvoir contribuer donc au bien-être donc des populations. Parce que quand vous prenez ailleurs les systèmes sanitaires ailleurs, ben, le système sanitaire est fait en sorte que la charge pèse beaucoup plus sur les citoyens. Même les pays, les modèles comme les États-Unis, la France, ben, on demande beaucoup plus aux populations de contribuer. Alors que dans nos pays, nous sommes confrontés à un problème. C'est que les gens n'ont pas une source de revenus assez adéquate. C'est pour ça qu'à un moment donné, l'État est obligé de subventionner pour permettre à ce que, ben, lorsque vous êtes malade, que vous vous rendez à l'hôpital, que ce que vous devez payer, qu'une partie soit déjà prise en compte parce qu'à un moment donné, vous contribuez. Et il ne faut pas regarder la somme que vous contribuez. Vous l'avez souligné, à la base du système, c'est la solidarité. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas être malade et permettre à ce que celui qui est dans une situation de maladie puisse être pris en soin, les soins adéquats. Et ensuite, c'est, comme vous l'avez dit, c'est l'universalité. Donc, c'est véritablement un système intéressant et il peut avoir des difficultés. Je pense que c'est dans les échanges. Et moi, ce dont je suis d'accord pour les échanges, ce qu'on puisse peut-être élargir le panier des soins qui sont offerts aux populations. Parce que sur le terrain, ce n'est pas encore.
Vous l'avez dit, je pense que c'est progressivement que cela se fera, parce que la MU, on l'a démarré tout récemment, mais il y a toujours, c'est tout un processus. Mais après tout, la MU, ce n'est pas le Togo qui l'invente.
Non, du tout. En fait, l'intérêt de tout ça, là, c'est quoi? C'est que les citoyens se sentent à l'aise. C'est tout quand on parle d'amis, tout ça qui gagne, c'est les citoyens. C'est-à-dire, quand vous tombez malade, vous n'avez pas les moyens, vous pouvez vous rendre facilement à l'hôpital. C'est tout, c'est l'intérêt. Mais pourquoi ça crie? Ça crie parce que peut-être il y a eu assez de critiques au niveau du processus. Et la deuxième chose, c'est que les entreprises ont du mal à régler les frais, c'est tout. C'est là où se situe fondamentalement le problème. Alors pourquoi ces entreprises ont du mal et on parle de 22%, tout ça? C'est parce que, vous savez, il y a un problème économique qui se pose. Le Togo, c'est un petit pays. Quand vous voyez, par exemple, le Togo, c'est combien de millions d'habitants? 8 millions environ.
Plus de 8 millions.
Yopougon, une des communes d'Abidjan. 1 million d'habitants. Abidjan, c'est plus de 6 millions d'habitants. La Côte d'Ivoire, c'est combien? C'est 31 millions d'habitants. Et comparé au Togo, tout ça. Donc, ce sont des pays de consommation, en fait. Par exemple, le Nigeria, n'en parlons pas, c'est plus de 200 millions d'habitants. Le Bénin dépasse le Togo en termes d'habitants. Donc, c'est des pays de consommation où l'économie, ça va vite, en fait. Donc, il y a des choses, dans certains de ces pays, ça ne pèse pas trop sur l'emploi, du moment où l'argent rentre, en fait. Vous voyez, par exemple, c'est ça, je ne sais pas que je fais du coq à l'âne, mais regardez, par exemple, la structure des radios aujourd'hui, des médias au Togo, les médias souffrent parce qu'il n'y a plus trop d'annonceurs. Vous imaginez, il n'y a plus trop d'annonceurs. Donc, pour pouvoir régler un certain nombre de charges, les patrons de ces médias ont assez de difficultés parce que l'argent ne rentre plus comme avant. Parce qu'il y a les TikTok, tout ça, qui prennent assez de marché. Il suffit aujourd'hui, si vous voulez avoir, vous avez un restaurant, vous communiquez sur TikTok, votre restaurant sera plein. Alors qu'avant, on a besoin des médias, des radios pour pouvoir communiquer. Donc, c'est des charges en moins, c'est des manques à gagner. Mais aujourd'hui, c'est parce que l'économie, ça ne tourne plus trop, l'argent ne rentre plus trop au niveau de ces entreprises, ces grandes entreprises-là, qu'on sent ça. Si on était dans des pays où la consommation avait un pouvoir de consommation assez sérieux, je pense qu'on n'aurait pas assez de critiques. La meilleure des choses, c'est de mettre en place des mécanismes qui puissent ouvrir l'économie pour que l'argent puisse rentrer dans les caisses des entreprises. Et là, on parlerait moins de... Sinon, ce que la dame Ingrid Awad, moi, je ne l'ai jamais vue, hein, c'est, vous savez, là où Ingrid Awad passe, il y a assez de réformes. On se rappelle quand elle a embrassé les impôts à l'époque, on a vu tous les remous qu'on avait eu, tout ça. Mais au final, elle avait fait un bon travail. Ce qu'elle est en train de faire, AMU, assurance maladie universelle, c'est pour le bonheur des Togolais. Donc, il reviendra au gouvernement de créer d'autres mécanismes de redistribution de la richesse pour que l'économie se prenne.
D'accord. Kofi, après tout, l'AMU, c'est une bonne chose.
C'est une très bonne chose. Je pense que il est important pour nous, en tant que citoyens, de comprendre qu'il n'est pas une chose convenable de se lever, de comparer nos réalités aux réalités d'autres pays. Nous n'avons pas les mêmes économies, nous n'avons pas les mêmes populations. Et dans cette histoire de l'AMU...
Vous voulez dire que nous n'avons pas les mêmes réalités?
Nous n'avons pas les mêmes réalités non plus. Et dans cette histoire de l'AMU, je pense qu'on est en train de confondre deux choses. La cotisation de la Caisse nationale de sécurité sociale et la cotisation liée à l'assurance maladie. Ce sont deux choses distinctes. Au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, nous avons 21,5% et au niveau de l'assurance maladie universelle, nous avons 10%. Les deux cumulés font 31,5%. Et de cette partie-là, de ce total-là, nous avons 22,5% qui partent pour les employeurs et une autre partie, une infime partie qui part pour l'employeur. On comprend que les réalités pour faire les affaires dans ce pays sont tellement difficiles. Gérer les charges liées à la gestion même des entreprises, payer les salaires, et dans ces salaires-là, il y en a qui ont trop de difficultés à respecter, le SMIC. Mais si nous essayons de comprendre que nous avons commencé l'AMU il n'y a pas longtemps, et il est important de comprendre que ces pays-là que nous citons aujourd'hui, au début, ont eu d'énormes difficultés à maintenir le cap de la gestion de l'AMU, je pense qu'il faut donner un peu de temps ou un peu de bénéfice de doute au gouvernement d'essayer de trouver des moyens de négocier régulièrement pour que d'un côté ou de l'autre, on puisse arriver à faire des concessions qui puissent nous aider tous dans ce pays.
D'accord. Alors, on va s'intéresser à notre sujet. On parle de politique. Oui. Je sais que ça vous intéresse, bien sûr. Gabin, c'est vrai, il y a le journal Le Changement qui est revenu sur ces derniers temps. On constate alors des démissions au sein du parti ANC. Oui. Le journal Le Changement est revenu alors là-dessus. Le journal qui écrit politique à ses détracteurs, Jean-Pierre Fabre, lance l'ANC est debout pour affronter toutes les manœuvres de déstabilisation. Alors, est-ce que vous avez aussi l'impression qu'il y a eu des manœuvres de déstabilisation du parti?
Oui, clairement. Moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui, entre-temps, faisaient partie de l'ANC. Aujourd'hui, il y a une démission à cascade de ces personnes-là. Même si pour moi c'est un épiphénomène, hein, parce que à un moment donné, quand tu fais partie d'un parti politique par rapport à tes propres convictions et que du jour au lendemain tu décides de partir, moi la question que je me pose, ces personnes-là valent quoi en dehors de l'ANC? Ils avaient un poids juste parce qu'ils faisaient partie de l'ANC. S'ils décident de partir aujourd'hui, peut-être moi la conviction ne changera pas si ces personnes-là vont créer des partis politiques ailleurs. Et mais si c'est rejoindre le camp d'en face, alors là ça pose problème, parce qu'à un moment donné, tu as imposé une idéologie et puis tu as décidé de faire une lutte. Est-ce que l'objectif est atteint? La lutte est atteinte? Non, je ne pense pas que l'objectif pour lequel ils se sont inscrits dans ce parti politique-là est atteint. Maintenant, quel est l'intérêt de sortir de ce parti politique-là? Beaucoup vont te dire non, la stratégie, le parti n'a pas de stratégie, je veux changer de stratégie. C'est ce que l'actuel sénateur Robert Olympia avait dit, que bon, il faut changer de stratégie. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce qu'un parti politique a une stratégie exceptionnelle? Non! Dans tous les pays, tous les partis politiques ont pratiquement la même stratégie, si tant est qu'on est en démocratie. C'est-à-dire, tu investis le terrain, tu rencontres des populations par des meetings, par des activités politiques, marches et autres, là. Et ensuite, au moment des campagnes électorales, tu investis le terrain, tu bats campagne, et puis si la population épouse ton programme de société, on te plébiscite ou bien on vote pour toi. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à aller élaborer dans un laboratoire une stratégie assez particulière pour venir au pouvoir. Non, c'est le peuple qui décide et qui va le gouverner. Donc c'est ces gens-là qui démissionnent en cascade. Non, je pars. D'ailleurs, quand ils vont intégrer le parti politique ANC, est-ce qu'on était au courant? Non, les gens ont démissionné du RPT d'antan, les Agbomé, les Daoku Péré et autres personnes, ils avaient démissionné et ça n'a pas fait du bruit. Ça dit, tu décides de démissionner, puis tu pars. C'est après qu'on constate que véritablement, tu es parti du parti. Mais si tu veux démissionner, bon, tu écris une lettre de démission, tu partages ça sur les réseaux sociaux. Quel est l'objectif? Et moi, la question que je vais encore poser, ces personnes-là, elles valent quoi en dehors de l'ANC?
D'accord, c'est votre question, et c'est une question que vous posez. Oui, Samir, quand on prend ces gens-là qui démissionnent au sein de l'ANC, des fois ce n'est pas des moindres, c'est des cadres hein, qui démissionnent, mais est-ce que ça ne dénote pas d'un malaise au sein du parti?
D'abord, il faut souligner que lorsque vous êtes un parti politique, vous êtes régi par un certain nombre de tests. C'est-à-dire que quand vous prenez l'Alliance nationale de changement, il y a un certain nombre de tests qui régissent le fonctionnement et l'organisation de ce parti.
Il y a même une ligne directrice ou conducteur directrice.
Véritablement. On sait la manière dont vous devez vous comporter pour adhérer au parti. C'est-à-dire la procédure que vous devez suivre pour adhérer au parti. Et on sait aussi la procédure que vous devez suivre pour quitter un parti. Mais quand vous regardez ceux qui ont quitté l'ANC, dites-moi, de vous à moi, est-ce qu'ils ont respecté la procédure?
La procédure, c'est quoi?
Mais la procédure, c'est que vous ne devez pas quitter le parti politique. Comment je vais dire ça? En propagandiste. C'est-à-dire que là, ils sont en train de détruire l'image de l'ANC. J'ai suivi la réaction du sénateur Robert Olympio, les propos qu'il a tenus. Pourtant, le Sénat est censé être une chambre de sagesse.
D'éloquence.
Un sénateur ne doit pas tenir de tels propos. Surtout après avoir fait un parti. Un parti qui vous a fait. C'est vrai que vous avez contribué à soi le parti, mais c'est grâce au parti qu'on vous a connu. C'est grâce au parti que vous avez acquis un certain nombre d'expériences. Donc, vous devez respecter ce parti-là. Et donc, quand vous prenez toutes ces personnes-là qui ont quitté l'ANC, j'ai comme l'impression qu'ils veulent faire la publicité de leur départ. Pourtant, quand ils adhèrent au parti, nous n'étions pas là. Mais la manière dont vous avez adhéré au parti, partez comme ça aussi et respectez ce que les tests disent. Je ne maîtrise pas totalement les tests de l'ANC, mais quand vous voyez la manière dont ils partent, soit la personne a été nommée quelque part, la personne quitte. Mais est-ce que cela respecte les procédures de l'ANC? Soit on a promis un poste à quelqu'un, ou soit le parti a décidé de ne pas participer à une élection, la personne dit « Niet, moi je vais participer ». Et là, ça sonne son départ. Donc, les départs, donc, au niveau de l'ANC, ou bien, soit une maire est en train de finir son mandat, la personne voit qu'il y a deux opportunités qui se présentent, et c'est là, elle dit qu'elle quitte l'ANC aussi. Donc, vous voyez les conditions de départ des membres de l'ANC. Vous posez la question, est-ce que ces gens-là, ils ont compris le fonctionnement et l'organisation de leur parti politique? La première analyse. La deuxième analyse, ceux qui les accueillent là, là où ils vont pour servir là, est-ce que demain, s'ils ne font plus partie de là où ils sont allés servir, est-ce qu'ils voudront quelque chose sur l'échiquier politique?
Moi, j'ai toujours eu cette conviction. Nous devons faire barrage à ces opportunistes. C'est de l'opportunisme politique. Et excusez-moi si j'étais à la place du président Fonia Singbe. C'est vrai que à quelque part, ce sont des calculs politiques, mais on ne construit pas une nation avec des opportunistes. C'est-à-dire que au niveau du Parti Unir, il y a des compétences. Il y a moins de compétences. Soit vous quittez le parti initial, vous militez dans le parti parce que vous adhérez aux idées du parti, soit vous créez votre parti parce que vous voulez vous aligner sur les lignes du parti au pouvoir et vous faites votre preuve. Et après, vous arrivez à ces postes de responsabilité. Parce que pour pouvoir servir l'État à ces postes de responsabilité, il faut montrer une certaine disponibilité et il faut montrer un certain engagement politique. On ne saute pas sur des opportunités parce qu'on risque, après que ces opportunités-là aient passé, de changer de camp. Demain, quand ils ne seront plus maires dans la nouvelle maison où ils sont allés, demain, quand ils ne seront plus ministres dans la nouvelle maison où ils sont allés, demain, quand ils ne seront pas sénateurs dans la nouvelle maison où ils sont allés, que deviendront ces personnes-là sur l'échiquier politique? Par le passé, on en a vu. Aujourd'hui, on n'en parle pas de ces personnes-là. Ils sont effacés politiquement. Ils ne valent plus rien sur l'échiquier politique. Pourtant, ces partis où ils ont quitté, ces partis sont toujours là et animent la scène politique. Donc, ces départs en cascade, en réalité, ça ne devrait pas créer de débat. Mais c'est les conditions dans lesquelles ces personnes-là partent qui suscitent des interrogations. Et je comprends l'ANC, je comprends le président Jean-Pierre Fabre. Quel que soit ce qui va se passer, l'ANC, c'est un parti légalement constitué. L'ANC continuera pas à exister. Hein? Quel que soit tous les membres qui devront quitter l'ANC, d'autres peut-être rejoindront leur rang et qui épousent leur idéologie. Et moi, je déplore qu'à un moment donné, on puisse composer avec ces personnes-là qui manquent de vision politique, qui manquent d'un certain engagement politique et qui s'offrent sur des opportunités politiques.
Merci,
ce qui n'est pas bien pour notre pays.
Merci, Samy. Oui, mais Firmin, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que ces gens-là qui quittent le parti sont des opportunistes?
Vous savez, la plupart de nos partis politiques en Afrique sont créés sur la base de l'opportunisme politique. Ouais. Vous savez, ceux qui se sont luttés pour les conférences nationales, la plupart, c'était des gens qui étaient convaincus. Les Agbouibor, les Degli, c'était des gens qui étaient convaincus. La plupart, quand vous lisez un peu l'histoire, mais la plupart de ceux qui sont venus après, c'était des opportunistes. Vous voyez, vous savez, j'ai un respect profond pour Jean-Pierre Fabre, j'ai un respect profond pour l'ANC. Et moi, tout ce qui est en train d'arriver à l'ANC, moi, ça me fait un peu mal. Parce que vous savez, en face, nous avons une IKE très puissante. Et il faut des partis beaucoup plus responsables, un peu forts, face à UNIR. Sinon, UNIR va écraser tout le monde. Mais ce ne sera pas trop intéressant pour la démocratie, quoi. C'est la démocratie, mais le jeu, il n'y aura pas assez de débats. Parce que UNIR n'aura qu'en face des faibles. Ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Jean-Pierre Fabre, il tient ferme. Mais il y a des choses à leur reprocher. Quand vous suivez un peu ce qui se passe au niveau de l'ANC, ça veut dire que nous avons, au sein de ce parti, moins de personnes, moins de gens convaincus. Moins de gens convaincus.
Pour la conviction n'y est pas.
C'est-à-dire, vous voyez un peu, la base était faussée, au fait. Les gens sont fâchés contre Jésus-Christ Olympe parce qu'il avait signé un engagement avec UNIR. À l'époque, si on peut appeler ça engagement, non, l'accord avec RPT en 2010. C'est en 2010, non?
Oui,
en 2010, les gens sont fâchés, tout ça.
D'accord,
l'accord RPT, les gens sont fâchés, ils ont créé. Ils se sont retrouvés, pourquoi? Sur quelle base? Sur quelle base, au fait, ils sont retrouvés à l'époque? Moi, je me dis qu'en réalité, ils sont retrouvés sur la base de Sivanus Olympio. Sur la base de Sivanus Olympio.
Là aussi, c'est une base.
Oui, sur la base de Sivanus Olympio. Vous savez, nous ne sommes plus en 1958. Nous ne sommes plus en train de combattre les colons. On a dépassé ça, en fait. L'histoire de l'UFC, c'était les Sivanus Olympio, en réalité. C'était le culte PPP. Patapatogo Palace, comment on définit ça?
PTP.
Oui,
PTP.
Le Parti Togolais des Progrès.
Oui, le PTP, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, nous ne sommes plus à cette étape-là aujourd'hui. Il y a beaucoup qui ont rejoint l'ANC parce qu'ils étaient nostalgiques de l'époque Sivanos Olympio. Vous voyez un peu ce qui se passe en France aujourd'hui. Le gaullisme, là, l'air là, est révolu. La droite est en train de disparaître. La droite s'était inspirée du gaullisme. Parce que ça, la droite française n'arrive plus à s'adapter aux réalités du monde moderne. L'ANC n'arrive plus. Ceux qui sont venus à l'ANC, ceux qui ont construit, la plupart de ceux qui l'ont construit, n'arrivent plus à s'adapter aux réalités du monde moderne. Les choses sont en train d'évoluer. Les Jean-Pierre Fabre et autres, ils sont toujours nostalgiques de l'époque ablodée. Tout comme le reliquat de l'UFC. Ceux qui sont aujourd'hui au niveau de l'UFC, c'est toujours ablodé. Ça ne peut plus répondre aux exigences du monde moderne. Alors, la meilleure des choses aujourd'hui qui leur reviendrait à faire, c'est quoi? C'est de réfléchir un peu à comment adapter leur parti aux réalités du monde moderne. Sinon, ce qui est en train d'arriver, c'est tout à fait normal. Mais sur ce, ça fragilise un peu la démocratie.
Merci, Fimer. Oui, Kofi, quelle est votre analyse alors de ce fait, c'est-à-dire fait politique, quand on voit des gens se quitter le parti ANC? Et est-ce que, tel que je posais la question, est-ce que ça ne dénote pas d'un malaise au sein alors du parti?
Tout à fait. Pascal, vous savez, lorsque vous avez passé des années à vivre avec des gens que vous considérez comme les vôtres, et que subitement, à un moment donné, ces personnes se mettent à vous quitter, une à une après l'autre, il est important pour vous de vous asseoir et de vous poser des questions. De vous demander pourquoi, pas seulement de vous poser des questions, mais de faire une analyse profonde de la cause du départ de ces personnes-là. Mais quand vous refusez de faire cette analyse, et au lieu de cela, vous jetez le dévolu sur une autre personne, vous cherchez des coupables en dehors de vous, vous n'arriverez pas véritablement à trouver une solution. Je pense que M. Jean-Pierre Fabre, au lieu de chaque fois crier, dire « bon voilà, il y a une tentative de déstabilisation de mon parti, il y a des gens qui sont en train de saboter le parti »,
mais est-ce qu'il ne le dit pas hein, sur des bases données?
Moi, je ne le sais pas.
Oui, mais quand
il n'appartient pas de faire une analyse justement de ce qui se passe dans son parti.
Tout à fait. Quand il le dit, peut-être qu'il a ses raisons.
Il y a des éléments factuels. Ces personnes sont nommées.
Il a ses raisons. Qu'il ait ses raisons ou pas, nous, on ne le sait pas. Moi, je ne le sais pas. Il lui appartient de faire ces analyses-là. Moi, j'ai une chose à dire. Et cette chose est en parfaite négation avec, en totale négation avec ce que vient de dire Gabin tout à l'heure, quand il parlait du fait qu'il y ait une stratégie commune pour tous les partis politiques de par le monde ou peut-être en Afrique. Vous savez, au niveau de la gestion des partis politiques, il y a une stratégie de base. Le fait de sortir, de faire campagne, de faire tout ceci, faire cela. Mais chaque parti politique, il lui appartient d'émettre une stratégie qui lui permette de prendre le pouvoir vis-à-vis d'un régime donné.
Fait de conquérir.
Un exemple de stratégie, s'il te plaît. Un exemple de stratégie, en dehors de ce que j'ai énuméré.
Écoutez, un exemple de stratégie, je vais aller un peu en Afrique du Sud, un peu en Afrique.
Mais on va rapidement, puisque notre temps est déjà
au niveau de la lutte pour le pouvoir en Afrique du Sud, l'ANC avait à chaque fois besoin de revoir sa stratégie vis-à-vis de la lutte qu'elle menait avec le régime d'en face. Pourquoi? Parce que les circonstances, les pas que posait le régime en place en ce moment, demandaient à ce que l'ANC puisse à chaque fois renouveler ses pensées, demandaient à ce qu'elle puisse trouver de nouvelles stratégies pour conquérir le pouvoir. Ici, nous avons une réalité. Peut-être l'opposition Bénin peut avoir une stratégie différente de la nôtre. L'ANC, les partis politiques de l'opposition, depuis les années 90 jusqu'à maintenant, ont été dans une seule dynamique. Celle de ravir le pouvoir au régime unir, au RPT unir.
Et cette stratégie... Il n'y a pas du parti RPT unir, il n'y a que unir maintenant.
Bah, unir aujourd'hui, mais RPT unir depuis 90, jusqu'à maintenant.
RPT depuis 90 et unir maintenant.
S'il y a des gens au sein de l'ANC qui estiment que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de prendre le pouvoir parce qu'il y a des problèmes de gestion de la stratégie, de gestion de la lutte. Alors, ces gens-là sont libres de chercher à sortir. Écoutez, il faut qu'on se respecte dans ce pays, il faut qu'on respecte les autres. S'il y a des gens qui décident à un moment donné de quitter l'ANC, parce qu'ils pensent qu'à un moment donné, les idéaux de l'ANC ne leur servent plus, selon
les raisons pour lesquelles ils ont rejeté ce parti-là, ils sont libres de partir. Qu'après 5 ans, 10 ans ou 20 ans, ces personnes-là se retrouvent sans poids réel politique, cela ne nous concerne pas.
D'accord.
S'il vous plaît, Pascal, vous savez,
il ne faut pas faire de l'amalgame. Nous sommes dans un pays censé être démocratique et à un moment donné, nous devons faire les choses dans les normes. Quand on parle de changement de stratégie, sincèrement, moi, je ne sais pas de quoi est en train de parler mon ami Kofi, que changer de stratégie. La stratégie, bon, peut-être on va dire dialoguer, mais on a eu à faire plusieurs dialogues dans ce pays. On a fait plusieurs dialogues, plusieurs accords ont été signés. Est-ce que ces accords ont été déjà mis en œuvre?
On va continuer le grand dialogue.
Même le CVGR, on a fait CVGR. Le dernier accord, c'était quand l'accord politique global, non? Est-ce qu'on a déjà mis ça en œuvre? D'autres personnes partent de l'ANC disant que non, ils vont aller changer les choses de l'intérieur. Mais il y avait eu des gens qui étaient à l'intérieur, là, on est professeur Nyevi et autres là. Ceux qui partent aujourd'hui, est-ce qu'ils sont beaucoup plus compétents que le professeur Nyevi, le regretté Agbo, qui était même premier ministre? Est-ce qu'il a pu changer quelque chose? Bon, à un moment donné, nous ne l'aurons pas. Ceux-là qui sont en train de partir là, ce sont des gens qui sont des opportunistes, ce sont des gens qui, parce qu'ils se disent, mon âge est en train d'avancer, jusque là, je n'ai encore rien mangé, je vais chercher à manger.
C'est pourquoi
ils sont en train de partir.
Bon débarras.
Merci beaucoup. Il est midi. Il est midi. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. C'est le principe de l'émission, puisqu'ils nous ont écoutés pratiquement pendant 60 minutes. Nous allons leur donner aussi la parole pour que nous les écoutions aussi. Et donc, nous allons leur donner la parole sur le 90 86 35 35 ou 80 11 36 63 75 et également sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à ceux qui font vivre cette émission.
93.5
Canal FM.
Canal FM.
Nous reprenons l'antenne, nous sommes de retour et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35, 91 36 63 75 et également nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. C'est bien sûr sur ce numéro que vous pouvez réagir. Notre premier auditeur se signale. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, moi c'est Tobi Djomati.
Tobi Djomati, vous nous appelez d'où?
J'appelle de Zanguera, derrière le contournement.
Zanguera, allez-y.
Oui, tous ceux qui invitent l'ANC, y compris les journalistes là-bas, à plus de vigilance, moi je m'inscris en faux. Il y a un parti en face qui est en train de manipuler les gens. Maintenant, ces gens-là, au départ, est-ce qu'ils n'ont pas compris la ligne de politique de l'ANC? S'ils ont compris, et qui n'ont pas agi, tant mieux. Maintenant, la question que je me pose va à l'endroit de nos amis de l'autre côté. Maintenant, c'est Judas-là, entre griffes, et est-ce qu'ils ont trouvé une place spécialement pour eux? Parce qu'on dit qu'ils volent un œuf, ils voleront deux. Ils voleront aussi là-bas. Est-ce qu'il y aura une place pour ces gens-là? Merci.
Merci beaucoup, Tobi Djomati, pour votre intervention. Bonjour le plateau. C'est dommage quand des gens suivent leur intérêt que l'idéologie de leur parti politique et ses déserteurs cherchent à se donner des raisons. Mais tout est clair. Ce sont des opportunistes. C'est Ibrahim qui nous écrit. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez nous appeler. Allô?
Allô.
Bonjour madame ici.
Allô, oui, bonjour.
J'espère que vous allez bien.
On doit aller sur la croix, mais on a tenu à pied avant.
D'accord.
Avant de partir.
Merci voilà. Pour la confiance.
C'est vendredi ça, à tout le monde. Bon, vous avez parlé de la caisse de sécurité sociale. J'ai eu sur radio quelqu'un appelé pour bloquer depuis 2023. Ils n'ont pas eu d'allocation familiale. C'est-à-dire pour les enfants, là, je crois. Je crois que c'est 5 000 ou 3 000 au lieu de 100 000 au moins. Parce qu'on n'est pas nombreux, le pays est immensément riche. Hein? Par enfant, on peut toucher 100 000. Voilà. Et puis, même, je sais que la France nous a transféré sa constitution qui a droit à l'allocation familiale, à l'allocation à la sécurité sociale. pour tous, et même à la location. Hein, sécurité sociale pour tous. Tu vas en France, on peut faire une opération de 20 millions, tu ne donnes pas un radio. C'est gratuit. Hein. On a la même constitution, on nous a payé de ça durant plus de 60 ans. Et c'est pas normal. Et pour parler de l'ANC, moi je dis que le nationaliste qui combat une dictature militaire installée en 63. Et puis, ils sont dans cette lignée. Si au bout de 40, 50, 60 ans de lutte, les gens pensent que c'est bon pour eux, qu'ils s'en aillent, quoi. Mais c'est pas qu'ils pourfendent le parti qui les a nourris et tout. Ça, c'est pas, c'est bas, c'est vil, c'est mesquin. Ils vont quand y aller, hein, maintenant ils vont trouver bon que on les a tellement opprimés, persécutés. On est torturé que c'est bon, ils voulaient aller au frère, ils vont pas y aller, quoi. Et puis, les gens n'ont pas arrêté à leur donner des conseils. Ces gens-là ont créé leur parti depuis la jeunesse des journalistes. Je veux rajouter pour fermer une seconde. Pour dire que mon père a été un progressiste. Un progressiste. Le progressiste, c'est des perspectives, mais ils n'étaient pas si violents. Et tout. Donc, on dit qu'il les enfermait, mais il n'en a jamais tué dedans. Il les enfermait seulement. Donc, il n'a pas été le dictateur.
Merci, madame. D'accord, merci, madame. Merci. Allez, bon chemin de croix à vous. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Bonjour, les amis. Vous savez, les gens démissionnés dans l'UFC, dans le passé, l'UFC existe toujours. C'est comme ça aussi. Les gens vont quitter l'ANC et l'ANC va toujours exister. La politique, c'est un jeu. Seulement que l'ANC revoit sa stratégie et plan d'action pour éviter tant de démissions. On dirait UFC égale ANC. Bonne émission. C'est Monsieur Nyamako qui nous écrit. Allô?
Allô?
Bonjour.
Monsieur Kofi.
Oui, Monsieur Kofi. J'espère que vous allez bien.
Oui, bien.
Allez-y.
Des fois, vous me suivez. Des fois, lorsqu'on recevait des gens, ils parlent. On ne se retrouve pas.
Allô, Monsieur Kofi? Oui. Monsieur Kofi, je voudrais juste que vous vous intéressez à notre débat. Oui, parlez-moi de la manière dont vous voyez les choses.
Rassurez-vous. On veut apprendre. On veut apprendre dans les réactions aussi. Comment vous êtes dans un parti et subitement vous quittez le parti et vous vous ralliez à l'autre camp que vous vous dites combattre, vous rallier ce camp, on va penser quoi de vous? Et quand on nous parle de stratégie de parti, peut-être que ils ont trouvé que il n'y a plus tellement de stratégie. C'est quoi un parti politique? C'est pour adhérer au pouvoir, ou bien? Moi, je pense pas qu'il y a d'autres stratégies que ça. Hein. Et c'est quand le parti sera au pouvoir qu'il va déployer son plan d'action. Et c'est là où on pourra juger ce parti-là. Ou bien, quand vous quittez pour aller dans votre camp, finalement, c'est quoi? C'est quoi? On doit apprendre. Hein.
D'accord, merci beaucoup, merci. Monsieur Kofi, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Bien sûr que c'est sur ce numéro que vous pouvez nous écrire. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
C'est Bozambo.
Ah, Bozambo.
Oui.
Allez-y.
Ok. Moi, ce qui me préoccupe au Togo maintenant, les Libanais qui sont installés au Togo torturent nos âmes, nos soeurs, dans leur société. Il faut oublier les partis politiques là. C'est ça qui me préoccupe. Par exemple, si tu rentres à l'usine de bateau, que là où on fabriquait les châssis de bière, tous des plastiques là, allez-y visiter cet endroit. Comment on est en train de torturer nos frères, nos soeurs là-bas? Et regardez les voitures qu'on l'accompagne.
Torturé, vous dites, Bozambo.
Oui.
Mais que vous dites torturé?
Oui. On a fait de battre les gens.
Est-ce que vous étiez parti voir justement cela? Et qu'est-ce que vous appelez pas torturé?
Allô?
Qu'est-ce que vous appelez pas torturé?
torturé, qui a battu quelqu'un dans son pays, qui a torturé.
Et vous en avez merci. Merci.
Pour frapper quelqu'un dans une usine.
Sincèrement, je ne sais pas exactement ce qui se passe là-bas, mais je pense quand même que pour le dire, il faut quand même que ça soit bien vérifié. 90 86 35 35 91 36 63 115. Allô.
Allô.
Bonjour. C'est Monsieur Nyamavo. Allez-y.
Oui, l'ANC, le courage. C'est comme ça un parti politique, quel que soit. En démarrer, doit tenir sa ligne politique. Mais je voudrais laisser un message à l'ANC. Chaque fois, avec les préalables, ça permet, c'est comme le chikungunya, excusez-moi le mot, les vers donc il faut se les surprendre dans l'eau chaude pour les tuer. Au fur et à mesure que vous durcissez le temps, la chaleur monte, eux aussi dessus leur coquille. Si bien que vous ne pouvez pas les avoir, je peux parler de unir. Ne dessus pas le ton. Surprenez-les en les suivant. Si vous êtes nageur, on ne nage pas à contre-courant. Donc, faites semblant de suivre le courant d'eau et vous allez atteindre l'autre rive. J'ai l'impression que l'ANC n'atteint pas, ne voit pas encore. Le terrible. Donc, quoi qu'il arrive, il faut qu'il concède certaines négociations avec les autres partis politiques pour faire front ensemble pour pouvoir dégager ce parti-là au pouvoir. C'est ça qui fait que les deux tendances, c'est-à-dire que l'opposition radicale, c'est ça qui fait radicaliser ce parti, pour l'a dit, lui c'est lui, moi c'est moi, moi je ne vois pas la différence. Parce qu'aujourd'hui, il a incarné le RPT, il a ramené le RPT pleinement, le parti unique, il va rester au pouvoir à vie. Il n'y a pas une différence. Lui, c'est lui, c'est moi, c'est la même chose. Donc, que l'opposition fasse un effort pour savoir négocier. Merci, bonne émission.
Merci et bonne journée chez vous. 90 86 35 35 91 36 63 115. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce vendredi. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Monsieur Abouvon.
Ah, Monsieur Abouvon.
Oui, j'espère que vous êtes le journaliste.
Oui,
je vais vous excuser. Si vous rentrez en ligne, demandez au technicien de nous prendre. Parce que nous aussi, nous préparons pour ça. Nous vous écoutons tous les jours. Merci. Hein.
Oui, Monsieur Bovon, ok, merci. Allez-y maintenant.
Ok, bon, moi je vais réagir par rapport aux critiques aux partis politiques ANC. Pourquoi les gens n'aiment pas qu'on critique ANC? Nous critiquons l'UNIR. Mais ces gens-là, ils n'interviennent pas pour nous injurier. On doit critiquer ce parti. Moi je peux dire que moi je suis militant de ANC. Hein. Je suis à Zandera. Et mon corps nous critique, ça va nous ouvrir les yeux. Et moi, si je suis chez mon papa biologique, est-ce que je vois que ça ne va pas? Mon papa ne m'éduque pas bien, ne me donne pas à manger. Et je vois mon oncle, je peux partir chez lui. Où est le problème? Est-ce que je suis pourri comme Jésus? Non! Et mon corps nous critique, on ne va pas nous tuer. C'est du critique. Non. Pourquoi?
D'accord, merci.
Nous avons voté pour ANC. Moi, j'ai voté pour ANC. J'ai voté à Cherniba Tibé, à Cherniba Zangera. Les gens, ils ont refusé de siéger à l'Assemblée. Vous voulez pas suivre ces gens-là comme ça?
Ok, mais merci. Merci, Monsieur Agbouvon, pour votre intervention. Je pense que vous êtes le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Il y a des messages, bien sûr. Il y a Alaza qui nous écoute. Alaza qui dit bonjour, Canal FM depuis 58 ans. Quelle stratégie RPT unie a? L'armée n'a qu'à s'éloigner de la politique et on verra. C'est Alaza qui nous écrit, bien sûr, ce message par rapport à ce que disait tout de suite Bozambo, il y a un confrère journaliste qui nous écrit, c'est vrai ce que Bozambo dit, j'ai déjà traité ce dossier il y a juste 3 semaines, et Do Comic en parle tout le temps, les gens sont vraiment torturés là-bas. Nous allons continuer quand même par suivre ce dossier et aller à l'information pour savoir exactement ce qui se passe là, à Gbatope. Et on verra, et nous allons mener justement le débat ici hein, au Club de la Presse. On revient en plateau, chers amis, pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission de ce jour. Gabin, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur l'actualité. Ça, c'est le principe de l'émission. Votre réaction?
Oui, ça fait toujours plaisir d'écouter les auditeurs. J'aimerais juste demander à M. Agbovan de calmer son corps, de ne pas se fâcher. La politique, ce n'est pas la quête de nourriture, hein. C'est la lutte pour le bien de la nation. Donc, du coup, qu'il calme son corps. S'il a des remontrances à faire à son parti politique, c'est son droit qu'il approche quand même le bureau politique de son parti politique et qu'il fasse des remontrances. C'est aussi ça, régler les problèmes en adulte. Et je conclue en souhaitant une bonne fête de Pâques à tous les Togolais et à toutes les Togolaises.
Merci. Oui, Kofi.
Merci Pascal. Je vais commencer par souhaiter une bonne fête de Pâques aux chrétiens du Togo. Et en parlant des chrétiens, je veux dire que je suis aussi chrétien. Et dans ma Bible, il est écrit qu'il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Je m'en vais dire que la facilité avec laquelle nous violons nos feux tricolores dans ce pays est inquiétante.
Ça vous tient à cœur, je sais que ce n'est pas la première fois que vous
le
dites.
Ce n'est pas la première fois que j'en parle. Si nous nous permettons de violer nos feux tricolores, de violer les lois que nous nous sommes fixées, je ne sais pas ce que nous avons à dire à nos dirigeants quand ils vont déconner. Les feux tricolores sont là pour une raison. C'est pour la sécurité de nous tous. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'agent de sécurité sur la voie publique qu'on doit se permettre de violer les feux tricolores. On n'a pas besoin qu'il y ait de policiers ou de gendarmes sur les voies avant de respecter nos feux tricolores. Il est important qu'on comprenne que ce pays est à nous tous et que si nous devons avancer, si nous devons vraiment nous développer, il faudrait que nous apprenions à respecter les petites lois que nous nous sommes fixées.
Merci Kofi. Oui, Samir.
Ben, je voudrais d'abord te remercier pour m'avoir invité. Ensuite, rassurer nos concitoyens que l'assurance maladie universelle, c'est une bonne chose pour notre pays. C'est une bonne chose dans le sens où cela permet d'améliorer les infrastructures sanitaires que nous avons, d'équiper nos centres de santé et puis d'avoir des produits pharmaceutiques pour les populations. C'est une bonne chose parce que, vous savez, ce projet-là est porté par le gouvernement avec l'implication d'un certain nombre de ministères, notamment le ministre Bawara, le ministre chargé des soins universels, et puis le ministre de la Santé. Il y a énormément de travail qui a été fait. Les réunions de concertation, les cadres de dialogue avec toutes les parties prenantes. Et c'est à l'issue de cela qu'une panoplie de tests a été votée. Donc des lois, des décrets, des arrêtés. Et les agents du secteur public ont été confiés à l'INAM, qui assure déjà leur assurance maladie dans le cadre donc de leur fonction de fonctionnaire et d'agent public. Et puis à la Caisse nationale de sécurité sociale qui se charge des salariés du privé. Et puis il y a un fonds qui a été annoncé par le gouvernement pour permettre à ceux qui n'ont pas une source de revenus de pouvoir bénéficier également des soins. Donc c'est une bonne chose. Ensuite, si vous permettez de terminer pour dire à nos concitoyens qu'en réalité le jeu politique est animé par les partis politiques. Et vous savez que dans notre pays, il y a une charte qui régit l'activité donc des partis politiques. Et au sein des partis politiques, il y a les tests qui régissent donc l'organisation, le fonctionnement de ces partis politiques. Quand on aspire à occuper des fonctions de responsabilité dans le pays, la moindre des choses, lorsqu'on adhère à un parti, c'est de respecter ces tests-là. Et lorsqu'on ne se sent pas bien, de pouvoir suivre la procédure, et ensuite, on est libre de militer ou de ne pas militer dans un parti politique. On ne force pas quelqu'un à rester quelque part où il ne pousse plus les convictions. Mais c'est la manière dont les gens quittent les partis politiques qui heurtent l'opinion nationale. Et puisque nous sommes des Togolais, et puisque tout ce qui se passe sur le territoire togolais, nous concerne tous, nous avons le droit d'en parler.
Nous avons le droit et on en a parlé au cours alors de ce débat. Oui, mais Firmin, rapidement, oui, votre réaction.
Deux petites choses. La première chose, normalement, l'ANC ne devrait pas trop s'en faire, parce que l'ANC est en train de vivre ce que les Jean-Pierre Fabre ont fait subir à l'UFC à Jerez Olympia en 2010. Ils ont vidé l'UFC de sa substance. C'est ce que les gens sont en train de leur... Aujourd'hui, les gens sont en train de quitter l'ANC, vide l'ANC de sa substance. Donc, c'est l'histoire qui est en train de se répéter. Donc, ils ne devraient pas en réalité s'en faire. Et puis, la deuxième chose, vous savez, ceux qui sont en train de quitter aujourd'hui l'ANC, les gens disent qu'ils vont rejoindre. Est-ce qu'il n'y a besoin de... Unie n'a besoin de personne, vous savez. Unie n'a besoin de personne. Parce qu'en réalité, la plupart de ceux qui quittent là, c'est devenu fretin. Et la troisième chose, que Dieu bénisse le Togo et Joël Spark.
D'accord, merci Firmin Teko Agbo pour avoir accepté notre invitation et d'avoir apporté votre contribution aussi à ce débat. Je rappelle que vous êtes chroniqueur politique. Merci, merci. Gabé Adjaro, analyste politique et juriste aussi. Merci d'être passé dans cette émission. Monsieur Kofi Anani, merci d'être passé dans cette émission. Vous êtes aussi analyste politique. Samir Orosama, merci d'être passé dans cette émission. Sinon, ça fait déjà beaucoup, puisqu'on on est à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions. Vous l'avez si bien dit, c'est un week-end prolongé, puisque le lundi, nous ne serons pas là. Nous serons là plutôt le mardi. Le lundi doit être férié, bien sûr, puisque c'est le lundi de Pâques. Joyeuse Pâques à nous tous. Et on se retrouve, bien sûr, le mardi pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.